Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, c'est Cinérama avec un sommaire très copieux aujourd'hui. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Pour toi Manus, c'est deux films ukrainiens, ce qui est rare.
Oui, il s'agit de Jeunesse en sursis et de Sans cette mère.
Quant à toi, Guillaume, c'est un film décevant.
C'est ça, c'est Pinocchio, la version donc de Robert Zemeckis sur Disney+.
Nous aurons aussi l'occasion de rendre hommage à un grand cinéaste qui nous a quittés à l'âge de 91 ans, c'est bien sûr Jean-Luc Godard. Mais nous allons commencer cette émission avec Virginie Efira, qui est dans la peau d'une victime d'un attentat qui n'apparaît que par bribes. Et elle décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. C'est Revoir Paris d'Alice Vinocourt.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Mia est traductrice de russe, elle a un partenaire aimant qui est médecin, elle vit à Paris, elle ne se pose même pas vraiment finalement la question de savoir si elle est heureuse ou pas, mais elle vit sa vie comme elle vient. Un soir, un orage la pousse à s'arrêter dans un restaurant pour boire un verre en attendant une accalmie, et c'est là que sa vie bascule. Deux terroristes entrent et font feu au hasard, tuant des dizaines de personnes.
Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
Les événements qui adviennent d'en Revoir Paris ne sont pas datés, les noms des lieux ont été changés. Nulle politique à la télévision ou personnalité qui pourrait nous affirmer que oui, le film parle bien des attentats de 2015. Car en effet, le film se soucie assez peu des faits, des lieux, des raisons même. Ce qui compte ici, c'est l'humain. La réalisatrice Alice Vinocourt, dont c'est le quatrième film, s'intéresse à ceux qui restent et à leur lutte pour réapprendre à vivre. Elle a choisi pour cela une comédienne qui sait à merveille jouer les femmes perdues, à savoir Virginie Efira, qui interprète ici Mia, qui suite à cet attentat ne se rappelle plus de rien. Elle a bien une cicatrice, vestige d'un impact de balle, il lui reste bien quelques images, quelques sons, des impressions, mais rien de concret. Elle prend alors contact avec une association de rescapés et son interlocutrice est formelle. Si elle veut guérir, il lui faut retrouver la mémoire, retracer le cours des événements.
Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs? C'est là où mes parents étaient assis.
Vous vous souvenez de moi?
Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous?
Vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu? Et vous n'avez pas ouvert?
J'ai pas fait ça.
Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé.
Pourquoi vous voulez vous souvenir?
Mia va rencontrer un autre survivant, interprété par Benoît Magimel, qui joue ici un second rôle assez peu intéressant, hein, où il semble se caricaturer lui-même, et pour lequel il a dû rendre fou les ingé-sons, tant son élocution est difficile. Entre eux émerge la possibilité d'une histoire d'amour, du moins la possibilité de se raccrocher à quelqu'un avec qui partager une même souffrance, une histoire commune. Il est beaucoup question de deuil et de traumatisme, et malgré les vraies qualités du film, on ne peut s'empêcher de se dire que le film de résilience en tant que genre cinématographique propose quand même souvent les mêmes choses et a tendance à manquer de souffle. On sent une volonté de grande pudeur, tout à fait compréhensible, hein, mais qui empêche le film d'avoir une certaine audace. Le film opte pour une sobriété telle que l'on est presque frustré en tant que spectateur.
J'aimerais bien retourner au musée où ils ont été. Pour la dernière chose qu'ils ont vue, j'aurais l'impression de leur dire au revoir.
Et puis l'autre personnage du film, hein, c'est bien sûr Paris. Paris qui est filmé comme une entité vivante, comme un organisme auquel le personnage principal appartient, avec lequel il fait corps. Les plans aériens accompagnés de nappes de musique synthétique montrant les flots lumineux de voitures comme autant de veines de la grande ville. Dans Proxima, Alice Vinocourt s'attachait à la préparation physique et mentale d'une astronaute jouée par Eva Green. Dans Maryland, on suivait la difficile reconstruction de Mathias Schoenert qui souffrait de stress post-traumatique. Si l'on pensait le cinéma de façon essentialiste, hein, on pourrait se questionner sur le fait qu'une jeune femme choisisse pour ses films des thématiques aussi masculines. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater que Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord, va aborder le même sujet que celui de Revoir Paris, les attentats, dans son prochain film Novembre, mais cette fois avec des personnages principaux masculins et un traitement visiblement plus axé sur l'enquête et sur la traque des criminels. En tout cas, tous les aspects de ce drame sont légitimes à être traités, bien sûr, par le 7e art, car si dans Revoir Paris, on assiste à la guérison de Mia, eh bien c'est un peu en même temps nous, spectateurs, qui guérissons de ce trauma collectif grâce au cinéma.
Revoir Paris d'Alice Vinocourt est en salle depuis le 14 septembre, tout comme Jeunesse sans sursis, une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Difficile de porter un regard critique, voire sévère, hein, d'un film sincère et personnel dont la carrière a été stoppée dans son pays d'origine, l'Ukraine, et qui sort aujourd'hui avec le soutien de sa réalisatrice, hein, Katerina Gornostai. Alors pourtant, Jeunesse en sursis, hein, en dépit de toutes ses bonnes intentions, déçoit. Le sujet en soi est intéressant et change de nombre de films de guerre et sociaux produits à l'intérieur d'un territoire en plein conflit. Il s'agit d'un teen movie centré autour de trois personnages, dont Martha, qui effectue sa dernière année de lycée aux côtés de ses deux meilleurs amis. Lorsqu'elle tombe amoureuse, la jeune fille timide et marginale doit sortir de sa zone de confort. Alors le dossier de presse parle d'une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel. Alors si le film fonctionne par scénettes, hein, révélant des comédien plein de charme et développant des situations attachantes, il peine à captiver sur la longueur. La durée excessive du métrage, hein, plus de 2 heures, entraîne de sérieux problèmes de rythme. Résultat, on finit par se désintéresser du sort de ces jeunes lycéens inquiets pour leur avenir. La cinéaste aborde avec subtilité leur rapport au monde, hein, leurs inquiétudes vis-à-vis d'une situation politique et sociale complexe, mais ne parvient pas à inscrire toutes ses qualités dans son histoire, qui pêche par une écriture nonchalante et surtout trop hésitante, ben, entre vraiment le teen movie classique, hein, et l'inspiration documentaire. Alors au lieu de donner de la force au film, hein, les nombreux regards caméra sous forme de témoignages alourdissent le propos et s'éloignent un peu du matériau fictionnel sans que l'on sente vraiment une cohérence, sinon la peur de se frotter vraiment au divertissement. Alors ce dispositif narratif est un peu à l'image de la mise en scène, hein, qui jongle entre un style naturaliste avec caméra portée à l'épaule et puis une esthétique plus marquée, une joliesse plastique, ce qui nous vaut d'ailleurs quelques belles trouvailles formelles. Alors documentariste de formation, hein, Katerina Gornostai, hein, jeune réalisatrice de 33 ans, signe donc un premier long métrage, alors foncièrement honnête, mais qui manque un peu de vie, de légèreté et de folie. L'atmosphère exsangue est représentée par la froideur clinique des salles de classe et de l'établissement scolaire dans son ensemble. Alors cet aspect glacial est sans doute symptomatique du climat qui règne en Ukraine, mais cette mise à distance finit par nous sortir d'un film qui aurait dû nous toucher, qui nous touche quand même un petit peu, hein, grâce, et là je le répète, aux comédiens qui sont tous exceptionnels.
Jeunesse en sursis est un film qui est en salle depuis le 14 septembre. Première partie du blind test consacré à Jean-Luc Godard, c'est maintenant.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Jean-Luc Godard cumule 11 millions d'entrées en salle en France. Le cinéaste est mort à 91 ans après 70 années de carrière. Voilà un blind test, c'est simple, 5 extraits, il faut découvrir les titres. C'est parti, c'est facile.
Pourquoi tu veux pas recoucher avec moi ?
Parce que je voudrais savoir, il y a quelque chose chez vous que j'aime, mais je ne sais pas quoi. Je voudrais qu'on soit Roméo et Juliette.
Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça.
Tu vois, tu disais hier soir dans la voiture, tu pouvais pas te passer de moi. Tu peux très bien. Roméo pouvait pas se passer de Juliette, mais toi, tu peux.
Non, je ne peux pas me passer de toi.
Oh là là, ça c'est bien les idées des garçons.
Bon, trouvé, facile.
C'est à bout de souffle.
Oui, film de 1960, c'est par lui, hein, que tout a commencé. Jean-Paul Belmondo qui veut recoucher avec Jane Seberg. 2,2 millions d'entrées en France. Deuxième extrait, facile encore.
Pourquoi t'as l'air triste ?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi on peut pas avoir de conversation. T'as jamais d'idées, toujours des sentiments.
C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments.
Bon,
On va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence.
Trouver, évidemment.
Pierrot le Fou.
Oui, film de 1965. Jean-Paul Belmondo adore la littérature. Il part avec Anna Karina, qui ne sait pas quoi faire, sur la Côte d'Azur. 1,3 million d'entrées en France. Troisième extrait de ce blind test consacré à Jean-Luc Godard.
Allez, Pépé, dépêche-toi. Faut aller te coucher, moi, maintenant.
Voilà,
allez, gentil. Mange ta soupe.
Allez, Pépé, couche. Ça, il m'enterra pas avant d'avoir dit sa phrase.
Allez, dis ta phrase. M'énerve pas, hein.
Alors, Pépé, tu l'as dit ta phrase?
En principe, les pauvres ont raison.
Trouvé, Manu.
Et c'est Passion.
Oui, film de 1982 avec Michel Piccoli en patron avec une rose dans la bouche et Isabelle Huppert en syndicaliste qui bégayait. 207 000 entrées en France pour ce film que j'ai trouvé particulièrement remarquable comme celui-ci.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
C'est encore Isabelle Huppert.
Et c'est Sauf qui peut la vie.
Oui, film de 1980, cette fois-ci, les angoisses et aspirations d'hommes et de femmes face à une société qui les broie. C'est en quatre mouvements, il y a l'imaginaire, la peur, le commerce et la musique. On y retrouve Jacques Dutronc, Nathalie Baye et Isabelle Huppert. Il y a une utilisation du ralenti qui arrive régulièrement dans ce film qui a fait 620 000 entrées en France. Dernier extrait pour trouver un titre de film de Jean-Luc Godard.
Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait et libre. Tu lèves la main, je suis responsable. Tu tournes la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse. Je suis responsable. Je fume une cigarette. Je suis responsable. Je ferme les yeux. Je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis.
C'est trouver également.
Vivre sa vie.
Oui, film de 1962. Tout à l'heure, il y avait 4 tableaux. Là, il y en avait 12. C'est l'histoire de Nana, jeune vendeuse désargentée qui rêve de devenir actrice à Paris et en vient peu à peu à se livrer à la prostitution. Et là encore, il y a des séquences remarquables sur le sujet. 462 000 entrées en France pour ce film. Fin de cette première partie du blind test consacré à Jean-Luc Godard. On passe à un film qui est en VOD sur la chaîne Disney+. C'est le 18e remake en prise de vue réelle d'un classique de Disney. C'est Pinocchio.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Étoile du soir, étoile d'espoir. Première étoile que j'aperçois dans le noir. Si seulement tu avais le pouvoir d'exaucer
Il était quelque part écrit que Robert Zemeckis s'intéresserait un jour à la mythique histoire de Collodi, popularisée par Disney dans ce qui est probablement le plus beau film d'animation de leur studio, avec Blanche-Neige et les Sept Nains et Fantasia. Alors, après tout, l'histoire de Gepetto n'est-elle pas celle du surdoué de VLC, celui qui a su séduire tous les studios, Romulus et Michael Douglas de sa vingtaine, qui a travaillé toute sa vie à renouveler le langage cinématographique en repoussant les limites du physique impossible, et qui a su créer un film en 7e art. Ce magicien de l'image participe à la révolution numérique, a su manipuler des acteurs de chair et d'os d'une façon inédite, a su leur donner une latitude tout aussi inédite avec son procès de performance capture repris depuis par le tout Hollywood, et a été l'un des seuls à véritablement plonger le cinéma dans le 21e siècle avec des films comme The Walk. C'est pourquoi il est d'une certaine façon incompréhensible de le voir faire ainsi le tapin pour le studio Disney et renier tout ce qui avait fait sa pertinence et son génie, marquant ainsi de façon assez cinglante un rendez-vous raté dans les grandes largeurs.
Ça perd les paupières.
Tu es presque un vrai garçon.
Tourne-toi que je regarde si tout va bien. Je serai à la maison. Et quand tu reviendras...
Pinocchio court les rues tout seul, sans une conscience. Vous imaginez les menaces qui pèsent sur lui?
Je n'aimerais pas voir ça sur ma conscience.
Toute personne qui n'est pas personne a envie d'être une personne.
Je veux être un vrai garçon.
Pourquoi diable veux-tu être vrai alors que tu peux être célèbre?
Je Je dis bien d'une certaine façon, hein, car les raisons, bah, il faut sans doute pas les chercher trop loin. D'un côté, il y a le fait que le public suive de moins en moins le réalisateur dans ses expérimentations et dans des projets originaux. Par exemple, lorsqu'il livre avec Allier un modèle de film noir, à la fois hommage assumé à Casablanca et relecture analytique passionnante du genre, et avec pourtant Brad Pitt en tête d'affiche, c'est un échec. Lorsqu'il livre un chef-d'œuvre absolu en forme de métaphore ultime de ce qu'est un metteur en scène avec The Walk, les salles sont vides. Et ainsi de suite, les années 2010 n'étant qu'une suite de frustrations aux grandes dames du cinéphile avide de ses expériences inédites. À croire que l'enfant terrible de Chicago est condamné à prendre un quatrième retour à le futur pour revenir en grâce aux yeux du public, alors que lui le refuse pertinemment, préférant bien évidemment les joies et l'aventure des territoires vierges et le futur tout court. La seconde raison est donc celle que j'évoquais plus tôt, à savoir la filiation évidente qu'il y a entre Robert Zemeckis, le créateur, et Gepetto, l'artisan, les deux à l'origine d'une illusion qui a su sortir de son cadre pour toucher le plus grand nombre de par son émotion primitive. En cela, Disney aura bien su attirer Zemeckis en son giron, en lui proposant le sujet le plus alléchant qui soit dans leur catalogue de dessins animés à remaker en live, et en plus promettant un succès public normalement assuré à la clé. Alors s'il est sûr que le film sera multi-regardé via la plateforme Disney+, c'est quand même fou que le film ne sorte pas en salle comme ça a été le cas par exemple du Dumbo de Burton ou du Cendrillon de Branagh. Mais bon, que l'écran soit petit ou grand, après Burton, Branagh et encore plein d'autres comme le génie Sam Raimi plus tôt cette année avec le désespérant Doctor Strange 2, l'ogre Disney a encore une fois détruit le talent engagé au lieu de se servir de la force créatrice qui avait pourtant été sollicitée.
Tu seras à jamais mon vrai petit garçon.
Un mensonge peut vraiment transformer quelqu'un.
Oh, qu'est-ce qui se passe, Jiminy?
On dirait de la magie féerique. À vue de nez, ça y ressemble bien.
Pinocchio 2022, c'est donc comme en 40, sauf que, ben non. D'un récit feuilletonesque avoué comme tel, mais ne laissant aucun temps mort au spectateur, on passe à un enchaînement de séquences qui n'ont pas le temps de cimenter l'émotion et qui donnent un sentiment de bâclé. Plutôt que de coller complètement l'intrigue, ce qui est d'habitude le credo d'adaptation live Disney, il a été décidé de la tronçonner pour ne garder qu'un digeste de séquences emblématiques de l'original, donnant une impression désagréable de best-of. Ce qui est quand même un comble pour celui qui a su se réapproprier un livre aussi complexe que celui de Carl Sagan avec Contact. Bref, un film non seulement de commande, mais en plus tiré vers le bas par un cahier des charges complètement aberrant et qui livre l'inverse donc de ce qui faisait les thématiques fortes du conte qu'est Pinocchio. La politique inclusive chère au studio se fait au détriment de toute logique, rendant l'Italie du 19e siècle encore plus artificielle que les douteuses images de synthèse employées, allant même jusqu'à contredire totalement le fond et les enseignements du récit de Collodi. La fin est à ce titre un monument de non-sens, parachevant le gâchis monumental de l'entreprise qui, à ce stade-là, n'est même plus contre-productif mais suicidaire. On se dit que Guillermo del Toro ne devrait avoir aucun souci à faire oublier ce malheureux faux pas en livrant pour Netflix sa propre version de Pinocchio en décembre. Et quant à Zemeckis, on lui donne rendez-vous en 2023 pour un huis clos très prometteur intitulé Here et qui semble loin, très loin du cancer lignifié de Disney.
On attendra donc ce prochain film de Robert Zemeckis, Pinocchio, est donc sur la chaîne Disney+. Une prisonnière tente par tous les moyens de ne pas être séparée de son fils, c'est 107 Mothers.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Les 107 mères du titre renvoient au nombre de femmes condamnées dans une prison à Odessa que le réalisateur et son équipe ont rencontrées durant quelques mois intenses. Alors pourtant, il s'agit d'une fiction, la première pour Peter Kerex. Son passé de documentariste frappe dès les premières images, très ancré dans un réel tangible, où l'on voit un groupe de femmes passer une visite médicale liée à leur grossesse. Puis le réalisateur filme un accouchement de manière frontale, plan rapproché à l'appui. La frontière entre le documentaire et la fiction est ténue, alors peu discernable dans ce film à la fois austère et ouvert. Austère car le sujet, qui rappelle d'ailleurs celui d'un documentaire iranien que j'avais chroniqué cette année, Sunless Shadow, sorti il y a quelques mois, est abordé là sans aucune concession. Ouvert car le cinéaste ne s'en tient pas à la seule prise, se permettant quelques digressions pertinentes. Alors une ossature narrative prosaïque se développe à l'intérieur de la minutieuse observation d'un univers sous cloche. Lesia, interprétée par une actrice, l'étonnante Marina Klimova, a été condamnée à 7 ans de détention dans une prison pour femmes à Odessa. Elle débute sa peine alors qu'elle est enceinte et donne naissance à son fils Kolia. Elle peut lui rendre visite et s'en occuper quelques heures. Lesia, jeune femme mutique, est entourée d'autres détenus, alors souvent incarcérés pour des raisons similaires. Elle va aussi faire la connaissance de la gardienne, Irina, personnage solitaire et célibataire qui habite dans la prison. Alors presque tous les protagonistes jouent leur propre rôle, ce qui évidemment accentue l'authenticité de ce très curieux film où l'on peine parfois à distinguer le réel de la fiction. La sensation est parfois étrange, proche d'un dispositif expérimental. L'ambition à travers l'histoire de Lesia est de se rapprocher des prisonnières, de les laisser s'exprimer, de prendre le temps de les observer, de leur donner la parole. Elles ne sont pas assujetties au discours du film qui évite le didactisme et surtout le manichéisme en ne dressant pas un portrait uniforme de la prison, c'est-à-dire un lieu uniquement glauque. Il n'est pas question pour autant d'édulcorer les conditions de détention, mais de dresser un constat alarmant de la situation de ces femmes dans une société patriarcale où elles ont du mal à trouver leur place. Alors rien d'étonnant à ce que la majorité de ces femmes se retrouvent enfermées, alors pour avoir tué leur mari, pour la plupart des cas, ou plus rare, leur maîtresse. Alors ce qui nous vaut quand même, dans les entretiens face caméra, quelques interventions presque amusantes. La mise en scène a tout en plan fixe et lumière naturellement désaturée et d'une rigueur exemplaire. Alors seule la dernière séquence, magnifique travelling latéral, s'offre une échappée belle, redonnant un peu d'espoir à ce beau film. Pas facile, mais indispensable.
107 Mothers est en salle depuis le 14 septembre. À noter qu'un film ukrainien, puisque là, il y avait deux films ukrainiens, m'a terriblement marqué. C'était en 2014, The Tribe, un film avec des sourds-muets.
Sourds-muets, c'est
ça ? Oui, oui. C'était un dispositif radical, mais très réussi.
À mon avis, les deux films sortent liés au contexte. Hein. Enfin, ça,
oui, la guerre,
je pense. Hein.
Ouais. Deuxième partie du blind test consacrée à Jean-Luc Godard.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Premier extrait.
Toi, t'es vraiment con.
Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires ?
Ça me va mal. Écoute. Trou du cul. Putain. Merde. Nom de Dieu. Piège à con. Saloperie. Bordel. Alors, tu trouves que ça me va toujours mal ?
Trouvé.
Et c'était le mépris.
Oui, film de 1963, désagrégation d'un couple formé par Piccoli et Brigitte Bardot, que nous écoutions. 1,5 million d'entrées en France. Un nouvel extrait.
Tu m'aimes, Kyo ?
Oui, bien sûr, je t'aime.
Parce que moi, j'ai bien réfléchi, je ne t'aime plus.
Allez, qu'est-ce qui se passe, Véronique ?
J'aime plus ton visage, j'aime plus tes yeux, j'aime plus ta bouche. J'aime plus la couleur de tes chandails, puis tu m'ennuies, tu peux pas savoir.
Hé, Véronique, qu'est-ce qui se passe ?
Je ne t'aime plus.
Mais je comprends pas.
Tu vas comprendre.
Véronique, dans...
La Chinoise.
Oui, film de 1967, réalisé un an avant les événements de mai 68. Hein, c'est considéré comme un film prophétique qui met en scène de jeunes gens qui étudient la pensée marxiste-léniniste. Et l'une d'entre elles, Véronique, veut assassiner une personnalité. 337 000 entrées en France. Nouvel extrait de la filmographie de Godard.
Quel est le privilège des morts ?
Ne plus mourir.
Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière?
La poésie.
Quelle est votre religion?
Je crois aux données immédiates de la conscience.
Est-ce que vous faites une différence entre les principes mystérieux de la connaissance et ceux de l'amour?
À mon avis, en amour, il n'y a justement pas de mystère.
Alors, cette voix caractéristique, c'est celle...
d'Eddie Constantine, dans Alphaville.
Une étrange aventure de Lemmy Cochon, film de 1965, film policier teinté de science-fiction. 503 000 entrées en France. Nouvel extrait.
Je ne veux pas mourir sans avoir revu l'Europe heureuse. Sans avoir vu le mot Russie. Et le mot bonheur s'accrochait à nouveau comme deux plaques de ceinturon. De svidanie.
C'est trouvé, Guillaume.
C'est film socialisme.
Oui, film présenté au Festival de Cannes 2010 avec un son digne des films des années 30. Le film comporte trois parties, des choses comme ça, Covadis au repas et Nos humanités. 28 000 entrées en France et toi, Guillaume, comme moi, nous étions dans une salle et nous avons contribué à ce chiffre.
Et je dois dire que des gens partaient pendant la séance. Ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Ouais.
J'en ai vu aussi. Dernier extrait de ce blind test.
Parce que voilà ce qui s'est passé. La photographie aurait pu être inventée en couleur. Elles existaient. Mais voilà, au petit matin du XXe siècle, les techniques ont décidé de reproduire la vie. On inventa donc la photographie. Mais comme la morale était encore forte, et qu'on se préparait à retirer à la vie jusqu'à son identité, on porta le deuil de cette mise à mort. Et c'est avec les couleurs du deuil, le noir, et le blanc, que la photo se mit à exister.
Voix caractéristique, c'est...
Histoire du cinéma.
Oui, série de films de Jean-Luc Godard, donc débutée en 88 et terminée en 98, série en 8 parties. Ainsi s'achève ce blind test spécial Jean-Luc Godard, donc qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. Et on ne peut que recommander de regarder tous les films qu'il a pu faire. Mais nous terminons cette émission avec un petit montage qu'on a déjà diffusé dans cette émission à l'occasion d'une rediffusion de films de Jean-Luc Godard sur une plateforme VOD. C'était des extraits d'un entretien qu'il avait donné quand l'Adieu au langage était sorti. Voilà, on vous propose ce court montage qui permet de dire au revoir à Jean-Luc Godard.
Ça me stupéfie qu'un enfant de 3 ans puisse demander pourquoi. Où il a appris ce mot, le sens de ce mot, qui est tout un truc comme ça, c'est venu comme ça. Ça devrait venir très à la fin, tout ça. À la fin de sa vie, peut-être. Traité de Lisbonne, est-ce que ça vient du tremblement de terre sous Voltaire? Pour lui, les salauds sont sincères. Enfin, on peut espérer entre les animaux, ils n'ont encore pas de carte d'identité. On m'a souvent dit du coq à l'âne, mais après tout, c'est les animaux. Non seulement j'aime la France, mais la France m'aime un peu quand même. Ah, c'est pas juste 3 vers de terre et comme ça avec un dialogue de Platon par-dessus. Je suis pas Marguerite Duras.
Moi je mange pas mal de pommes aussi comme ça, mais je les regarde longtemps aussi. Il fait croire que j'étais un garçon à filles. J'ai eu que des malheurs avec les filles. J'aime bien le journaliste d'investigation. Cette histoire de Grèce, je comprends pas. Les Allemands qu'à payer et à dire merci. Ils l'ont envahi combien de fois? Ils l'envahissaient avec les touristes combien de fois? Aujourd'hui, on devrait fusiller beaucoup de gens. Il n'y a aucun État qui ose le faire. Michelet, quand il parlait du comité de salut public, il disait c'est des gens qui ne dormaient pas, qui étaient et qui pleuraient tout le temps. Il allait ceux-là fusiller, puis ils pleuraient. Facebook, tout ça, je sais même pas ce que c'est. Des fois, je regarde, moi j'aime bien Dr. House, comme beaucoup de gens. Un film d'entreprise, j'en ai fait un pour France Télécom aussi, comme ça, qui n'est jamais sorti. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura beaucoup de pénalty. C'est ça que j'aime bien. J'avais eu ça avec Delon sur, je m'en souviens plus quoi, sur Nouvelle Vague. Je lui ai dit, on tourne pas. Je lui ai dit, non, il y a un figurant qui est malade. Moi, j'ai pas de retraite, je la prendrai pas, j'en veux pas. Lionel Messi touche 30 millions d'euros par an, et comme c'est pas assez, il se fait représentant des voitures riches, qui s'appellent riches en plus, de la Chine. Ma mère et mon père, en fait, n'avaient jamais vu de film parlant avant ma naissance. Ils n'avaient vu que des muets.
C'était Jean-Luc Godard, donc je ne sais plus où j'ai pris cette interview, mais j'en ai fait voilà, une bribe et un montage. C'était la manière de Cinérama de dire au revoir à ce grand cinéaste.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine en espérant eh bien, qu'on ne rendra hommage à personne finalement, si ce n'est un grand film Avatar.
Oui, de James Cameron qui ressort en salle dans une version inédite.
Et putain Manu...
Je vais vous parler de Libre Garance, ce premier film d'une jeune réalisatrice.
Et moi je vous parlerai de Tout Fout le Camp. À la semaine prochaine.
Tu m'aimes ?
Oui, j'aime tes yeux, j'aime ta bouche. J'aime tes genoux, j'aime ton cul, j'aime tes cheveux, j'aime tes mains.
Alors tu m'aimes totalement?
Oui. Et toi?
J'aime ton front, et j'aime tes jambes, et j'aime tes couilles, et j'aime tes épaules, et j'aime ta bouche.
Cinérama.
Tu m'aimes totalement, alors?
Oui, totalement.
Cinérama.